it's a goodie place, so far, far away from home. Just a point in the space where ships and mine can't fall. But if you wanna fly to different travels home, maybe you're gonna die, but welcome to Raptor Hole. Welcome to Raptor Hole. Welcome to Raptor Hole.
On ne pourrait pas aller un petit peu plus vite?
Techniquement, si.
Mais ce coin-ci de la galaxie est truffé de nuages d'astéroïdes. Si j'accélère encore, on prend le risque de s'en exploser un à la tronche. Et comme disait ma grand-mère, mesure et mère de prudence. Vous ne comprenez pas. Il est primordial de livrer cette cargaison sur Astor avant jeudi prochain. Si on arrive trop tard, la cérémonie ne pourra pas avoir lieu. Et tout sera foutu. Peut-être. Mais comme disait ma grand-mère, mieux vaut arriver en retard que pas du tout. Quoique... c'était peut-être la sécurité routière, je sais plus, mais je m'en tape. On doit faire vite. J'ai déjà mis trop de temps à réunir tous les éléments. Le frère de la nuit sembla réfléchir intensément. Dessous sa capuche, seules deux petites lueurs verdâtres indiquaient la présence d'un visage. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin ? Demanda-t-il au pilote, qui se gratta le menton et haussa les épaules. Si, on peut toujours essayer de passer par la bordure. Ça rallonge un peu, mais on pourrait augmenter la vitesse et du coup gagner du temps. Comme disait ma grand-mère, le plus court chemin demande parfois un plus long effort. Oui, non, enfin peu importe, mais pourquoi vous l'avez pas dit avant? C'est pas très sécure comme zone. Ça fait pas vraiment partie des itinéraires conseillés, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la bordure, quoi. On sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Des astéroïdes, par exemple? Non, ça va, on est tranquille de ce côté-là. Alors va pour la bordure, s'exclama le frère de la nuit qui perdait un peu patience. Terry, le pilote, changea donc de direction et, enfin sorti de la zone des astéroïdes, passa la vitesse supérieure. Le frère de la nuit, qui se prénommait Horace mais préférait qu'on l'appelle frère Érèble Ténébreux, poussa un soupir de soulagement en regagnant sa cabine. Depuis qu'il avait rejoint la confrérie des ombres de la nuit 8 ans plus tôt, c'était la première mission importante qu'on lui confiait. Il était resté longtemps au service du père Motte le Ravageur, s'occupant des repas et du linge. Et même si on lui avait assuré qu'il était d'une importance capitale que les nappes noires ne perdent pas leur éclat et soient soigneusement repassées avant chaque cérémonie, il aspirait à œuvrer au grand projet d'une manière un peu plus héroïque. Et puis, il avait fait cette allergie au nouvel assouplissant choisi par le frère Smartelos le Sacrificateur, le grand intendant de la confrérie. On l'avait donc affecté au service de Sokar le Profanateur, le frère voyageur qui parcourait la galaxie pour amener les divers éléments nécessaires aux cérémonies. Pendant 2 ans, Horace l'avait donc accompagné. La plupart du temps, il se rendait sur les planètes voisines pour se fournir en bougies, en encens, en linge de maison et en sang de vierge. Une fois, lors d'une expédition mémorable, ils avaient fait plusieurs mois de voyage afin de ramener un troupeau de boucs. Et puis, le grand maître suprême, Haddad l'Orageux, avait décrété que les temps étaient venus de procéder à l'ultime cérémonie, celle qui engloutirait l'univers tout entier dans un feu de mort et de dévastation. Ça avait été une grande nouvelle. Les frères avaient même organisé un petit barbecue pour fêter l'événement. Mais l'ultime cérémonie exigeait un rituel bien précis. Elle devait avoir lieu exactement le 3e jeudi du mois de la déchéance humaine, février dans notre calendrier, à l'heure de la tristesse infinie, approximativement 11h moins le quart. Elle devait aussi comprendre toute une série de sacrifices. Le sang devait couler dans les tranchées creusées par les frères, retraçant les symboles entremêlés de la caille et de la belette qui réveilleraient la bête et mettraient fin au monde. Pour ce qui était des sacrifices humains, il y avait tant de volontaires zélés parmi les membres de la confrérie que cela ne poserait aucun problème. 9 boucs étaient également nécessaires, ce qui était bien pratique car il en restait une petite dizaine sur Astor. Enfin, 1842 chatons devaient périr par le couteau, ce qui promettait d'être en plus de cruel et sanglant, atrocement long. En compagnie de Sokar le profanateur, Horace, ou plutôt Érèble Ténébreux, partit donc chercher la précieuse cargaison de chatons. Pour cela, ils voyagèrent longtemps et très loin. Non pas que le chat soit devenu un animal rare, mais, d'une part, trouver une aussi grande quantité de chatons s'avéra plus difficile que prévu, et d'autre part, la plupart des élevages de la galaxie se révélèrent réticents à confier leurs mignons minous à des frères de la nuit, désireux de les égorger lors d'une cérémonie destinée à provoquer l'apocalypse. Passant outre ces difficultés et déboursant une coquette somme, ils avaient tout de même réussi à se procurer les précieux félins. Mais le frère Sokar avait été victime d'une vilaine intoxication alimentaire sur Devan 6 et avait fini par mourir dans d'atroces souffrances. La scène avait été effroyablement sale et dégradante, ce qui était en soi pour un frère de la nuit la promesse d'être accepté dans le carré VIP de l'autre monde et de séjourner parmi les enragés et les sanglants. C'était carrément la classe. Mais à quelques jours de la grande cérémonie, cette mort prématurée laissait aussi Horace tout seul pour amener la cargaison de chatons sur Astor. Et voilà, je l'avais dit, la bordure, c'est pas sécure. Comme disait ma grand-mère, l'imprudent qui se hâte, bien souvent ses blessures tâtent. Mais fermez-la avec votre grand-mère et sortez-nous de là, abruti ! C'était ce qui arrivait quand on voyageait avec des impies. Mais Horace, dit érable ténébreux, n'avait pas vraiment eu le choix. Et maintenant, à seulement 3 jours de l'ultime cérémonie, le destin testait donc sa foi. Car il ne doutait pas qu'il s'agissait d'une épreuve. Et il était convaincu d'en sortir triomphant pour la plus grande gloire de la confrérie. Il s'agenouilla donc, tira une dague de sa ceinture, déchirant sa paume avec la lame, et entreprit de tracer les glyphes anciens sur le sol de la cabine de pilotage. « Mais vous êtes timbré, mon petit vieux !» hurla immédiatement Terry. Le frère de la nuit lui renvoya un regard sévère et continua son jeu, psalmodiant une prière destinée à s'attirer l'aide de la bête. « Arrêtez ça tout de suite, je vais jamais arriver à ravoir la moquette !» Tes invectives ne peuvent rien contre la puissance du destructeur des mondes, incroyant. J'invoque son nom et il détruira nos ennemis. Tu vivras assez longtemps pour témoigner de son pouvoir. Ainsi il est dit dans le livre de l'ombre. Et moi je te dis qu'on va se faire descendre, alors continue à pourrir mon intérieur si tu veux. Moi je vais essayer de nous sauver les miches. Terry se retourna vers le tableau de bord de son vaisseau, saisissant le volant à pleine main, et tenta une manœuvre de contournement pour échapper aux pirates qui les avaient pris pour cible. Il réussit à prendre suffisamment de vitesse pour espérer les semer, mais leurs tirs touchèrent l'un des réacteurs, et le vaisseau partit complètement en vrille. « On va se crasher !» hurla-t-il en se protégeant bien inutilement le visage de ses bras. Il est certains usages à respecter, en littérature comme au cinéma, lorsqu'un naufragé s'échoue sur une île, ou parfois une planète déserte. Tout d'abord, le lieu ne doit pas être excessivement hospitalier, sans quoi toute l'intrigue de l'histoire tombe ainsi dire à l'eau. Le principe veut que le héros souffre un peu, pas qu'on lui offre des vacances aux frais de l'auteur. Ensuite, il faut que l'île, ou la planète, ne soit pas aussi déserte qu'il semblait a priori. Bien qu'éloignée de la civilisation et n'offrant que très peu d'espoir aux naufragés de la quitter, elle doit tout de même contenir un certain nombre de menaces, plus ou moins mystérieuses et inquiétantes, auxquelles il aura à faire face. Cette seconde règle, dite « principe de Lost », a pour but de maintenir éveillée l'attention du lecteur ou du spectateur, en générant ce que l'on appelle communément un « putain de suspense ». Suivant cet usage, Terry, Horace, érable ténébreux pour les copains, et les 1842 chatons de la cargaison s'échouèrent donc sur Raptorol. Welcome to Raptor. Mais arrêtez-les, bon sang, arrêtez-les ! Le frère de la nuit hurlait sur un Terry complètement sonné par l'atterrissage forcé, tandis qu'une armée de chatons effrayés et ivres de liberté se dispersait dans la forêt. Mes chatons de l'apocalypse, tout est foutu maintenant ! Horace chouinait, la tête entre ses mains, assis contre un arbre. À cause de lui, la fin du monde n'aurait pas lieu. Il allait être la risée de la confrérie. Peut-être même qu'on l'en exclurait. Sa vie était fichue. Venez m'aider, les dégâts ne sont pas si importants, je crois qu'on peut réparer le réacteur. En fait, on a plutôt intérêt à le faire vite avant que les pirates ne décident à venir voir s'ils peuvent récupérer des trucs. Oh, frère machin chose ! Avec beaucoup de mauvaise volonté et tout en continuant de pleurnicher, Horace se leva et vint prêter main forte à Terry. C'est alors qu'un grondement terrible retentit dans la forêt. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Aucune idée, et je ne préfère pas le savoir. Allez, au boulot. J'ai des pièces de rechange pour le moteur, je m'en occupe. Vous, allez me chercher une bobine et refaites-moi la liaison entre les panneaux et le transfo que le réacteur gauche soit de nouveau alimenté. Si on est efficace, dans moins de 20 minutes, on dégage. Et mes chatons? Comptez pas sur moi pour leur courir après. Un petit kilomètre de là, le vaisseau pirate qui les poursuivait avait atterri dans l'espoir de les attaquer sur la terre ferme. Mais Terry et Horace n'avaient pas vraiment de soucis à se faire de ce côté-là. Essentiellement parce que les 10 pirates de l'espace étaient en train de se faire boulotter par des raptors. Putain de merde, ils ont bouffé Vincent! Où est-ce qu'on est tombé, les gars? Les gars? Mélilas Bacon manœuvre à bord du terrible destin, le vaisseau pirate du capitaine Bocteau courait à travers la forêt de Raptor Hall, comme s'il avait la mort aux trousses, ce qui était en fait plus ou moins le cas. Vincent, dit main moite, le second du capitaine, s'était fait attraper le premier. La suite avait été rapide, floue et un tantinet sanglante. Un des raptors était carrément monté à bord du vaisseau, dont la rampe était descendue. Les pirates avaient pris la fuite, s'éparpillant, les dinos aux fesses. Mais Lila s'était sûre que Triche Poil Vert et Harry le Gourmand étaient à ses côtés moins d'une minute plus tôt. Se retrouvant à courir tout seul, slalomant entre les arbres et appelant régulièrement sa mère, il ne perdit pas de temps à chercher ses potes, et il pria très fort pour ne pas finir comme les autres. « Si je m'en sors, je jure de retourner sur Devan 6 épouser Marianne, comme je lui avais promis, et même je reconnais tous les gosses que je lui ai faits. » Après cette pieuse promesse, il courut encore presque un quart d'heure. Constatant qu'il était toujours vivant, il osa se retourner un instant. Rien derrière. Cette partie de la forêt avait l'air plus calme. Il avait peut-être réussi à semer les raptors. Peut-être que sa prière avait été entendue. Il ralentit le rythme, regardant un peu partout, tout autour de lui. C'est là qu'il vit une lueur. À quelques centaines de mètres, dans une grotte à flanc de falaise, quelqu'un avait fait un feu. Il avait eu la frousse de sa vie. Il était trempé de sueur et la nuit qui tombait n'était pas vraiment pour le rassurer, ni pour le réchauffer. Dans l'idée que les dinosaures ne font pas de feu et qu'il y avait sans doute moins à craindre d'un humain inconnu que d'un vélociraptor mangeur d'hommes, Mélilas se dirigea vers la grotte. « Bonsoir !» lui dit chaleureusement une jeune femme, complètement nue. Elle était assise en tailleur près du feu, au-dessus duquel cuisait une sorte de brochette. Elle caressait 3 mignons petits chatons qui s'étaient lovés entre ses jambes. Une bonne centaine d'autres avaient trouvé refuge dans la grotte et l'emplissaient d'un ronronnement apaisant. La fille souriait, accueillante, tandis que le feu irradiait l'endroit de sa chaleur et faisait briller ses tétons. Mélila se demanda s'il n'était pas endormi dans sa couchette après avoir abusé de la liqueur de pruneau de Triche Poil Vert, en train de faire un rêve érotique chelou. Après tout, ça n'aurait pas été la première fois. Mais d'habitude, ses songes comportaient moins de chatons. « À qui ai-je l'honneur ?» demanda la jeune fille avec douceur. « Mélilas Bacon, madame. Enchantée, Mélilas. Je m'appelle Arna, et on peut dire que vous avez eu de la chance. » Elle l'invita à s'asseoir près du feu, et, craintivement, il s'exécuta. Elle ne devait pas avoir plus de la vingtaine, était complètement à poil, et pourtant, il sentait vaguement qu'il aurait été stupide de cesser d'avoir peur. Un petit chat tigré vint donner un coup de tête amical à son genou, ajoutant un miaou de bienvenue. « Il y en a un peu partout dans la forêt depuis tout à l'heure. La plupart ont eu de la chance en venant sur mon territoire. Un peu comme vous. Ici, ils n'ont pas à craindre les dinosaures. Ils évitent ce coin-là, généralement. » Mélilas brûlait de demander pourquoi, mais il n'était pas sûr de vraiment être prêt à entendre la réponse. Le chaton tigré s'installa à ses pieds, entreprenant une toilette méticuleuse. « Tu aimes les histoires, Mélilas Bacon ?»« Oui, madame. Je vais t'en raconter une. » Ça y est, le propulseur est alimenté, les hélices sont réparées, je crois qu'on va pouvoir décoller. Horace ? Terry fouilla la clairière du regard. La nuit était tombée, les bruits flippants étaient de plus en plus nombreux, et il n'y avait aucun signe du taré en capuche. Frère Ereb, le machin truc ! Oh ! Pour toute réponse, les grognements bizarres semblèrent se rapprocher. Comme disait ma grand-mère, quand le hérisson est mort, il n'est plus temps d'user de ses piquants. Je me casse. Horace vit décoller le vaisseau et poussa un soupir. À quoi ça servait de s'enfuir d'ici, de toute façon? Il ne pouvait pas rentrer sur Astor sans les chatons. Il avait bien essayé d'en rattraper, mais il n'avait récolté que de vilaines griffures. Un lecteur compatissant envers les innocents Matou et la Ligue de protection des animaux dirait sans doute qu'il l'avait bien mérité. Il errait à présent entre les arbres, psalmodiant vaguement la prière des résignés, quand il tomba sur le vaisseau pirate. Le carnage avait été total. Il trouva des petits bouts de trucs qui devaient avoir fait partie d'un corps humain. Beaucoup, beaucoup de sang, et, contournant l'appareil, il vit la rampe abaissée. Il entra, découvrant une moitié de capitaine Bocteau, et entendit un grognement derrière lui. Il se retourna et sourit en apercevant deux vélociraptors aux babines ensanglantées. Le carré VIP de l'autre monde lui apparut dans un moment de grâce et il sut qu'il pourrait s'asseoir à la table des démembrés. Et c'est quand la prochaine pleine lune? C'est pas que votre histoire ne m'ait pas émue, hein, au contraire. C'était vraiment triste à la fin. Mais je tiens un peu à la vie et je voudrais pas, enfin, et puis... C'était drôlement dur à présenter sans paraître égoïste et malpoli. Mais Lila s'en rendait bien compte. Aussi cherchait-il ses mots et une idée. Soudain, le chaton tigré, qui, sa toilette finie, s'était endormi sur ses pieds, se réveilla et lui mordit le gros orteil. Aussitôt, le pirate saisit le petit félin, lui gratouillant le ventre et le serrant fort contre lui. Et puis, il y a les chatons. Ils sont quand même tout petits et vachement mignons. Faudrait pas qu'ils courent un risque aussi. Arna, dont le visage s'était durci au récit de son histoire, et particulièrement de la fin tragique du pauvre Joachim, se radoucit un peu. Ce type sentait la transpiration, le pruneau fermenté et la trouille à des kilomètres. Son gilet à franges était élimé et les couleurs passées, si bien qu'il avait davantage l'air d'un hippie à lendemain de cuite que d'un véritable pirate. C'était le premier être humain qu'elle croisait depuis la mort de son amant. Elle était restée longtemps seule sur cette planète. Là ou ailleurs, sans Joachim, ça lui était bien égal de toute façon. Mais ce grand gus maladroit et puant, sans qu'elle ne se l'explique vraiment, l'émouvait. Elle le laisserait vivre, finalement. Elle aiderait même à quitter Raptor Hall sain et sauf. Ça lui ferait du bien de faire une bonne action. Peut-être que ça l'aidera à dormir. Ne craignez rien. Phila et Piplou ne seront pleines que la semaine prochaine, et il reste encore 3 bonnes heures avant que Barry ne le soit. D'ici là, vous aurez regagné votre vaisseau sain et sauf. Elle lui expliqua comment, et le visage de Mélilas Bacon passa du blanc au rouge en une amusante palette de couleurs. Ses petits yeux jaunis s'illuminèrent, et il offrit à la jeune fille un sourire tout en chicot noirci et dents en or. La méthode n'était pas pour lui déplaire. Vraiment. « Allez, faites pas votre timide et venez par là !» lui dit-elle en ouvrant les bras, se préparant psychologiquement au câlin le plus écœurant et le plus généreux de son existence. L'étreinte dura quelques secondes, durant lesquelles Mélilas retint son souffle, se maîtrisant avec la dignité d'un gentleman. La ressource était insoupçonnée chez lui. Mais l'idée que la fille qui le serrait contre elle était un loup-garou, susceptible de lui arracher un bout de son anatomie avec les dents si le dibou ne se comportait pas bien, était rudement efficace. « C'est bon, vous pouvez y aller. » Les raptors ne vous embêteront plus. Et prenez ce chaton tigré. Je n'ai pas idée de pourquoi, mais on dirait qu'il vous aime bien. » Mélilas Bacon saisit le petit félin, offrant son épaule aux jeunes griffes, et s'en alla avec un sourire timide. L'odeur du loup-garou sur lui, il regagna le vaisseau sans encombre. Il dut tirer une moitié de capitaine Bocteau dehors, ainsi qu'un pied dont il ne reconnut pas le propriétaire. Il s'agissait d'Horace, dont les prières avaient été entendues, et qui devait probablement festoyer pour l'éternité dans un paradis chelou. Puis, il put enfin décoller, quittant presque sans regret cette étrange planète. « Et les chatons, ils sont devenus quoi, papy ?» demanda petit Georges. Mélilas Bacon gratouilla le derrière de l'oreille de Combo, le vieux matou tigré qui occupait ses genoux comme un pays conquis. Pensif, il haussa les épaules. Il n'en avait aucune idée. Petit Georges fut déçu et demanda un autre jus de fruits d'un air boudeur. Sur Raptor Hall, les chatons sortaient par centaines de la grotte d'Arna, trottinant gaiement sur leurs petits coussinets tout doux. Certains se bagarraient, roulant-boulant dans les fougères géantes. D'autres effectuaient leur toilette. D'autres encore chassaient les feuilles mortes ou les gouttes d'eau en poussant d'amusants miaulements. Parmi eux, un petit chartreux suivit un papillon. C'était tellement joli, les papillons. Peut-être qu'en sautant très haut, il pourrait le croquer. Ça devait être drôlement bon, un truc aussi coloré. De pas en pas, de saut en saut, le chaton s'éloigna de la grotte, gambadant, insouciant à travers la forêt. Il finit bientôt par perdre l'insecte de vue. Il était alors bien trop fatigué pour rentrer. Au pied d'un arbre, un tout empli de mousse lui servit de panier, et il s'endormit. Quand il se réveilla, la nuit était tombée, et il sentit des yeux qui le fixaient. Face à lui, un vélociraptor le regardait d'un air méfiant, humant l'odeur environnante avec circonspection. Dans le ciel, un coup de vent chassa les nuages, dévoilant un joli rond blanc. Barry, plein. Si tant est que les chats puissent sourire, c'est ce que fit le petit chartreux, esquissant une grimace malicieuse avant de pousser un miaulement un peu bizarre.
It's a goodie place so far, far away from home. Just a point in the space where ships and mine can fall. But if you wanna fly to a different travel's hole, maybe you're gonna die, but welcome to Raptor Hole. Welcome to Raptor Hole. Welcome to Raptor Hole.